Mélomanie. Mélomanie, le rendez-vous des mélomanes, une émission proposée et animée par Éric Dupri.
Bienvenue sur Radio Présence à l'écoute de votre magazine de l'actualité musicale classique toulousaine et régionale. C'est le 263e numéro de Mélomanie. Lors de notre précédente émission, nous vous avions annoncé une semaine de folie dans les salles toulousaines, que ce soit à l'Opéra National du Capitole ou à la Halle au Grain. Eh bien, la semaine à venir est tout aussi fournie en événements musicaux, même si la dernière d'Idoménée, l'Opéra de Mozart, a lieu jeudi au Capitole. D'autres propositions sont à noter sur vos agendas, notamment les vendredis 8 et samedi 9 mars, où le Requiem de Maurice Duruflet est donné à la Basilique Saint-Sernin par la Schola Cantorum. Nous allons vous présenter en seconde partie d'émission ce concert avec l'organiste Michel Bouvard et avec Jean Percy, le fondateur et directeur artistique de la Schola Cantorum. Tous deux sont les invités d'honneur de ce numéro et je précise que Jean Percy est également producteur de l'émission Point d'Orgue sur Radio Présence. À leur côté, j'ai le bonheur de retrouver Serge Chauzy, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour le site Culture 31 et le journal La Voix du Midi. Serge et moi, nous allons nous lancer tout de suite dans un retour arrière, ma foi, assez copieux.
Mélomanie. Retour arrière.
Bienvenue aussi à vous trois et en particulier à Michel Bouvard et Jean Percy que nous recevons pour la première fois à Mélomanie. Plusieurs concerts ont donc eu lieu depuis notre dernière émission et nous allons revenir d'abord sur celui du Hong Kong Symphonic Orchestra donné mercredi 28 février à la Halle au Grain à l'invitation du cycle des grands interprètes. Un concert d'autant plus attendu que le pianiste Alexandre Kantorov y était également à l'affiche. Quelles œuvres ont été jouées ce soir-là, Serge ?
Et oui, alors rappelons que quand même le Hong Kong Philharmonic Orchestra...
Ah oui, j'ai dit symphonique, c'est philharmonique, vous avez raison.
A 50 ans cette année, et son chef, qui le dirige depuis très longtemps déjà, c'est le grand chef néerlandais Jaap van Zweden, qui était déjà venu lui à Toulouse. Et donc nous avons eu un programme très varié, qui s'ouvrait sur une œuvre d'un compositeur hongkongais d'aujourd'hui qui s'appelle Daniel Le Ting Cheng, je ne garantis pas la prononciation chinoise, et l'œuvre s'appelle Asterismal Dance. C'est une, d'après le compositeur lui-même, un scherzo fantastique autour des étoiles, des astres, etc. Une œuvre très rythmique, très contrastée et très colorée, qui a beaucoup plu au public. Et puis ensuite, nous avons eu de Serge Rachmaninov la rhapsodie sur un thème de Paganini, avec en soliste Alexandre Kantorov, évidemment, étincelant pianiste, comme on le sait déjà, avec une puissance de frappe impressionnante, mais avec la patte de velours qu'il sait faire dans les bons moments. Donc, ça a été très brillant, très beau.
Et l'œuvre s'y prête en plus.
Ah, l'œuvre s'y prête. Et puis, il a donné un bis tout à fait extraordinaire, une improvisation sur le grand air de Samson et Dalila, « Mon cœur s'ouvre à ta voix », le grand air de Dalila, qui était une transcription de Nina Simone, la pianiste de jazz. Il avait récupéré cette partition, il l'a donnée en bis.
Je parlais de choses inattendues, ça c'était un bis inattendu.
Ah, complètement, complètement. Et en deuxième partie, alors c'était plus... j'allais dire entre guillemets traditionnel, puisque c'était la première symphonie Titan de Gustav Mahler qu'on a entendu assez souvent à Toulouse, là, avec un orchestre, un bel orchestre, hein, très sonore, et qui était dirigé par Jaap van Zweden à la manière d'une musique de chambre pour grand orchestre, où on avait les détails qui apparaissaient, des nuances intéressantes, jusqu'à l'apothéose finale avec ce fameux crescendo et ce fameux outil extraordinaire, explosif, hein. Ça a été là aussi un très grand succès et ça a été suivi par un bis à l'orchestre et ce bis c'était la danse slave numéro 8 de Dvorak, tout feu tout flamme par cet orchestre très dynamique.
Eh bien voici un extrait de la symphonie numéro 1 en ré majeur Titan de Gustav Mahler dans une version du Hong Kong Philharmonic Orchestra dirigé par Jaap van Zweden. C'est le final, ce quatrième mouvement et donc cette fin très impressionnante, molto appassionato.
Thank you.
le final du quatrième et dernier mouvement molto appassionato de la symphonie numéro 1 en ré majeur, dite Titan de Gustav Mahler, interprété par le Hong Kong Philharmonic Orchestra sous la direction de Jaap van Zweden. Prochain concert de la saison des grands interprètes dès ce jeudi 7 mars à 20h, toujours à la Halle aux Grains, avec le duo formé par David Frey et Renaud Capuçon. Nous allons en parler un peu plus tard dans cette émission. Et nous restons pour l'instant à la Halle aux Grains pour revenir maintenant sur le concert de l'Orchestre National du Capitole. C'était jeudi dernier, sous la direction de Roberto González Monjas. Le violoniste espagnol a officié également en tant que soliste pour ce qui devait être, a priori, Serge confirmera, sa première venue à Toulouse, à l'occasion de cette soirée sous-titrée Mozart de A à Z. Serge, comment se sont passés les débuts de Roberto González Monjas à Toulouse?
Très bien, c'est un chef d'orchestre et violoniste, et donc il a dirigé l'orchestre en formation réduite, évidemment. Alors, avec un programme très amusant, très intéressant. Pourquoi de A à Z? Eh bien, parce qu'il a dirigé, en début de concert, la première symphonie composée par Mozart à l'âge de 8 ans, et à la fin du concert, la dernière symphonie de Mozart, la 41e, Jupiter. Et entre les deux, eh bien, l'œuvre a mis distance, en quelque sorte, entre les deux, le concerto pour violon numéro 3, le merveilleux concerto pour violon, toujours de Mozart. Alors, la première symphonie, ça surprend toujours un gamin de 8 ans qui compose une musique comme ça. Et une musique avec de l'humour. C'est ça qui est incroyable. Et puis des dissonances.
C'est impossible que le père, Léopold, y ait mis un petit peu quand même la main à la pâte.
N'ayez pas mauvais esprit. Mozart était un génie, donc on va considérer que c'est vraiment de lui. Alors, vraiment, avec ces trois mouvements de cette première symphonie, amusant, quoi. Très beau, avec des répétitions, bien sûr, mais toujours très intéressant. Et puis ensuite, nous avons eu droit à ce concerto pour violon numéro 3, en sol majeur, donc une œuvre magnifique, que donc le chef a dirigé depuis son archet. Vraiment, son jeu faisait preuve d'une imagination incroyable, en particulier les ornementations, les diminutions qu'il introduisait et qu'on n'entend pas souvent, qui sont le fait des interprètes, évidemment. Et avec donc une imagination des couleurs vraiment intéressante, avec ces trois mouvements magnifiques, et puis surtout dans les cadences. Alors les cadences, là, ils se donnaient à fond. Et donc c'était à la fois, en particulier dans le deuxième mouvement, lent, raffiné, sensible, mais vif quand il le faut. Et la dernière, la troisième œuvre, donc la symphonie Jupiter, la 41e, pardon. Alors là, il a mis du nerf et des contrastes, avec en particulier des accents qu'on n'entend pas quelquefois, des accents brefs, presque brutaux, mais jamais brutaux, presque donc, mais presque tragiques. On dirait que c'est du Mozart sans le gras, du Mozart très acéré, très vif, avec notamment dans le troisième une dentelle dans le trio, et puis la construction alors du dernier mouvement. Le dernier mouvement, c'est extraordinaire, sur le plan contrapuntique, c'est une construction phénoménale. Et là, il l'a mené de manière implacable, avec sa direction à la fois animé et sur le podium, on pourrait dire un peu chorégraphique, parce que c'est quelqu'un qui se donne à fond.
Oui, oui.
Donc vraiment un beau concert, pas traditionnel dans le sens où la révérence que l'on éprouve vis-à-vis de Mozart, quelquefois, limite un peu les expressions un peu fortes.
Et là, il n'y a pas eu de bis.
Et là, il n'y a pas eu de bis. Exprès, il n'a pas voulu jouer de bis après. C'était une construction qui n'en appelait pas.
Oui, oui, tout à fait. Et donc, ce concert Mozart de A à Z s'inscrivait dans la semaine Mozart. Donc, vous savez, il dominait à l'Opéra National du Capitole. Et puis, la journée Mozart, toujours à l'Opéra National du Capitole, dont nous allons parler dans quelques instants. En attendant, voici un extrait du concerto numéro 3, K216 de Mozart, pour réécouter le violon de Roberto González Monjas. Il s'agit du début du fameux premier mouvement Allegro. Thank you. premier mouvement allegro du concerto pour violon sol majeur numéro 3 K216 de Mozart, joué par Roberto González Moras. C'est la pièce que le violoniste espagnol a donc joué et dirigé jeudi à la Lograin à la tête de l'Orchestre National du Capitole lors du concert Mozart de A à Z, deux jours avant la grande journée Mozart à l'Opéra National du Capitole que j'évoquais il y a quelques minutes. C'était en parallèle des représentations d'Idoménée. Cette journée Mozart s'ouvrait à 15h avec le concert Mozart Jeune Homme proposé par un quatuor de musiciens des Clés de Saint-Pierre. Quatuor qui s'est même transformé en quintette à un moment donné, Serge.
Absolument. C'est un quatuor, le quatuor Cordes et Âmes, d'ailleurs, qui est un quatuor constitué de quatre musiciens et musiciennes. D'ailleurs, le musicien est minoritaire.
Oui, absolument.
Le musicien, c'est le violoncelliste Gaël Sédoux. Et les violonistes, c'est Mary Randles, Laura Jaillet. Et là, il y avait l'altiste Isabelle Mention, qui fait partie du quatuor, et s'ajoutait Joyce Blanco-Lewis.
Isabelle Mention, qui est même à l'origine de ce quatuor.
Exactement. Et donc, Joyce Blanco-Lewis, qui est la deuxième altiste. Et puis, il y avait la flûtiste Mélisande Daudet, première flûte de l'Orchestre National du Capitole, avec Sandrine Tilly, les deux. Donc, le programme était constitué d'abord de deux quatuors à cordes. Le premier, le quatuor numéro 4 en ut majeur, dit Milané, puisque Mozart était à Milan lorsqu'il l'a composé. Alors un quatuor de lumière magnifique, avec une cantilène nostalgique, avec un final vif et joyeux. Et puis le deuxième quatuor, complètement différent. Quatuor dramatique, c'est le numéro 13, dit Viennois. Il était à Vienne, de retour à Vienne. Et donc c'est un quatuor que pour ma part, je dois avouer, j'ai découvert avec une inquiétude, le drame qui surnage tout au long des quatre mouvements, et avec en particulier le final, qui est une fugue, et qui s'achève de manière tout à fait étrange sur un diminuendo et le silence absolu, un decrescendo et le silence. On a l'impression que la mort plane au-dessus de cette œuvre. Ensuite, on a eu droit à un quatuor pour flûte et cordes, cette fois donc, avec Mélisande Daudet à la flûte. La flûte qui dominait presque trop les cordes du quatuor. Une flûte virtuose, magnifique, on la connaît, hein, au pupitre de l'Orchestre du Capitole. Donc c'était vraiment très très beau, avec notamment cet adage sur les pizzes de cordes, et puis la joie du rondo final. Un très beau moment là aussi, de Mozart, ce Mozart jeune homme, mais... Est-ce que Mozart a été autre que jeune dans sa vie, hein? Je crois qu'on ne peut pas parler du vieux Mozart. Hein?
On pourrait même dire qu'il est resté un peu éternellement enfant.
Oui, exactement, exactement.
Donc, c'est le premier concert. Il y en avait deux autres ensuite lors de cette journée Mozart. Bon, on ne peut pas parler de tout. Ce qu'on peut dire en revanche, c'est que c'était très bien rempli, hein, le Capitole, à l'occasion
absolument,
de cette
absolument.
Journée Mozart. Hein.
C'était plein. Et puis, je dois ajouter que le public, dans le public, il y avait un nouveau public, puisqu'on s'en est aperçu aux applaudissements qui jaillissaient après chaque mouvement, qui n'attendaient pas la fin de l'œuvre. Apparemment, c'était des nouveaux et ça fait plaisir.
Bien sûr. Lors de ce concert Mozart jeune homme que donnaient les musiciens des Clés de Saint-Pierre au Capitole, il y avait donc au programme le quatuor pour flûte et cordes numéro 1 K285. Je vous propose d'écouter son deuxième mouvement Adagio et c'est Jean-Pierre Rampal qui est à la flûte. Thank you. Le son de la flûte de Jean-Pierre Rampal dans ce deuxième mouvement adagio du Quatuor pour flûte et cordes numéro 1, K285 de Mozart, l'une des pièces qui était au programme du premier concert de la journée Mozart samedi dernier à l'Opéra National du Capitole. Fin de cette première partie d'émission, petite pause musicale et l'on revient à l'antenne avec Serge Chosy et avec nos deux invités d'honneur, Michel Bouvard et Jean Percy, pour la rubrique Agenda de ce numéro. Restez bien à l'écoute de Radio Présence, à tout de suite.
Mélomanie. L'agenda.
L'agenda de Mélomanie, toujours en compagnie de Serge Chosy et donc avec l'organiste Michel Bouvard et avec Jean Percy, fondateur et directeur artistique de la Schola Cantorum de la Basilique Saint-Sernin. Ils sont en concert les vendredis 8 et samedi 9 mars à 20h30 à chaque fois. À la Basilique, il y a une seule œuvre au programme, le célèbre et si beau Requiem de Maurice Duruflet que nous allons évoquer avec vous deux dans quelques minutes. Tout d'abord, si vous le voulez bien, on va faire une petite présentation de la Schola Cantorum, un ensemble et une association que vous avez créée en 2020, Jean Percy. Je dis ensemble, mais en fait, l'association regroupe quatre chœurs, tous rattachés à la Basilique Saint-Sernin. Quelles sont les spécificités de ces quatre formations et quelle est la vocation de chacun d'entre eux ?
Alors, chaque chœur a une vocation bien spécifique que nous avons définie en fonction des compétences de chaque chef, parce que nous sommes quatre chefs pour quatre chœurs différents, avec des projets bien différents, mais qui sont assez unis finalement autour de la musique sacrée et de la musique liturgique. Alors, ces quatre chœurs, on a dans un premier lieu, on a la maîtrise avec des enfants. Donc là, on a un partenariat avec l'école Saint-Joseph de Toulouse, et également qui s'ouvre à l'extérieur, avec un atelier vocal. Donc là, il y a une maîtrise d'enfants. Ils sont assez nombreux, ils sont 70, donc ça se développe, ça va dans le bon sens, et c'est extrêmement dynamique, bien entendu. Ensuite, on a un chœur grégorien dirigé par Clarisse Chantelot, professeure au conservatoire, qui là, j'ai envie de dire, se cantonne au grégorien, mais une fois qu'on a dit ça, en fait, le grégorien, c'est des siècles de musique et d'évolution musicale qui résonnent encore aujourd'hui. Je pense qu'on va pouvoir en parler à propos de Duruflet. Et donc là, c'est un répertoire là aussi immensément large, spécifique, et qu'on entend assez rarement, et qu'on a voulu remettre au goût du jour avec Clarisse, et donc ça fait des choses tout à fait extraordinaires. Ensuite, on a un chœur d'hommes, là dirigé par Mathieu Duboc, qui m'a beaucoup aidé à monter cette association qui est la Schola Cantorum. Donc lui, il se dirige vers un répertoire assez éclectique. Je ne vais pas trahir sa pensée, mais il aime beaucoup la Renaissance. Et lui, bien sûr, il se dirige vers le répertoire à voix égale, bien spécifique, et avec cette colorimétrie, ce velours des chœurs d'hommes qui est toujours assez extraordinaire, surtout dans une acoustique comme celle de Saint-Sernin. Et enfin, moi, on va dire que je suis le plus classique des quatre. J'ai le grand chœur, qui est un chœur mixte, finalement, où on fait du répertoire qui va du grégorien à nos jours, le contemporain, toujours dans la musique sacrée et liturgique. Et l'objectif, là, c'est d'avoir un répertoire le plus large possible.
Alors, l'objectif aussi, bien sûr, c'est d'animer les offices à Saint-Sernin. C'est pas pour rien que vous êtes rattaché à cette paroisse et à cet édifice, si l'on peut dire.
Alors, absolument. On a même une lettre de mission de la part de l'archevêque, Mgr Guy de Quérimel, qui nous assigne à résidence à Saint-Sernin. Et c'est, ma foi, un endroit magnifique pour pouvoir travailler.
Vous auriez pu tomber plus mal.
Ah, absolument. Donc, voilà, à cet édifice incroyable. Et donc, nous avons deux missions. L'animation des messes du dimanche soir, notamment, sauf la maîtrise, petite exception qui fait une fois par mois, à peu près, le matin. Et nous avons également, et elles sont rediffusées sur Radio Présence, les vêpres solennelles du dimanche soir. Là, les chœurs tournent entre eux pour pouvoir offrir également aux auditeurs ce répertoire formidable qui existe autour des vêpres. Donc oui, il y a beaucoup d'offices que nous faisons, ça fait partie de nos grandes missions.
Et puis vous avez une vocation qui est peut-être première finalement, en tout cas avec celle que vous venez de décrire, c'est de former aussi des choristes et de former notamment les choristes de demain.
Absolument, d'où le nom d'ailleurs de Schola Cantorum, école de chant. L'objectif, c'est de former les gens parce que, bon, bien sûr, le conservatoire fait un travail absolument fantastique. Nous, on travaille avec des gens qui sont d'un niveau extrêmement... il y a beaucoup d'éclectisme. On a des grands professionnels et on a des gens qui ne savent même pas lire une partition. Et l'objectif, c'est de former un tout homogène et cohérent. Ça, c'est vraiment notre objectif principal. Alors pour ça, on s'est attaché les services de Alfredo Poisina, ténor à l'Opéra National du Capitole, qui nous aide en tant que coach vocal, professeur de technique vocale, avoir une belle homogénéité entre tous les chanteurs et le travail porte du fruit. Et l'objectif, c'est véritablement de former les jeunes, pouvoir leur donner des outils, de travailler dans un lieu exceptionnel, avec des musiciens exceptionnels, dans un cadre exceptionnel. Et ma foi, ça marche plutôt
bien. Et de leur donner tous les outils de la formation du choriste.
C'est ce qu'on essaie de faire. Alors, il y a plus plus que la technique vocale. On leur donne des cours de solfège pour ceux qui sont un petit peu plus en retard sur certaines formes. Et donc l'objectif, c'est véritablement d'avoir un niveau homogène et de les tirer vers le haut pour pouvoir produire de belles productions, que ce soit pour les messes ou pour les concerts.
Donc animer les offices à Saint-Cernin, former des choristes, et puis aussi il y a deux saisons culturelles vraiment avec une programmation. Et là il y a deux lieux, il y a Saint-Cernin mais il y a aussi la chapelle des Carmélites.
Alors ça, c'est la nouveauté de cette année. Effectivement, on s'est rapproché de la mairie de Toulouse qui nous a offert, là aussi, un très beau lieu. Alors, à quelques pas de la basilique, c'est la merveilleuse chapelle des Carmélites, exceptionnelle également d'un point de vue acoustique parce que le plafond est en bois, ce qui fait qu'il y a un son tout à fait spécifique à cet endroit et qui donne vraiment une très grande chaleur. Donc là, le deal avec la mairie était très simple. On répète tous les 15 jours, les dimanches après-midi, là-bas. C'est ouvert au public, donc les gens peuvent assister à la répétition. Et en contrepartie, on fait plusieurs concerts. Donc on en a eu déjà un premier où on a repris, on a fait un petit peu un pot-pourri de tout ce qu'on a travaillé et on va en refaire un au mois d'avril autour d'Emmanuel Pellapra qui sera au clavier de son harmonium d'art autour du Via Crucis de Franz Liszt.
Donc deux saisons culturelles à Toulouse, mais vous rayonnez au-delà des frontières toulousaines, hein, vous n'êtes pas seulement un ensemble toulousain, vous rayonnez dans la région et même déjà en Europe.
Oui, alors dit comme ça, ça fait effectivement impressionnant, surtout que le projet est très jeune, la Scola n'a que 3 ans. Donc effectivement, comme nous avons 4 chœurs, il est assez facile de pouvoir bouger, et c'est notamment le cas avec les tournées que nous organisons. Alors tous les chœurs bougent, alors que ce soit pour des masterclass, pour des stages, ou pour des tournées de concerts, ça arrive avec les 4 ensemble. Alors cette année, le chœur d'homme va partir vers Perpignan et en Espagne, jusqu'à la Sagrada Familia. On a également la maîtrise, étant donné qu'ils font partie de la Fédération Nationale des Puéricultores, en fait, eux, ils suivent la fédération dans ces congrès, que ce soit nationaux ou internationaux. Il y a eu Rome là qui est passé, je crois que le prochain est en Allemagne, je ne veux pas dire de bêtises, mais voilà, donc ça a tendance effectivement à même à s'exporter à l'international. Et quant au grand chœur que je dirige, l'été dernier nous étions à Londres, ce qui nous a permis de chanter dans des lieux extraordinaires, la plus ancienne église d'Angleterre, c'était extraordinaire, et Westminster Cathedral qui est un lieu extraordinaire avec un orgue de chœur, si j'ose dire, avec des basses de 32 pieds, enfin des trucs absolument gigantesques, mais qui donne évidemment beaucoup de responsabilités dans ces lieux chargés d'histoire et en tout cas d'histoire également musicale, et qui donne envie de se développer et de faire plus. Et c'est pour ça que là nous allons essayer, enfin nous avons été invités à nous produire en Allemagne, et donc voilà, c'est le prochain objectif, Allemagne.
Eh bien, je vais continuer à parler un petit peu anglais parce que last but not least, la Schola Cantorum a déjà enregistré un disque paru en début d'année. Vous l'avez largement consacré à Gabriel Fauré en cette année où nous commémorons le 100e anniversaire de la mort du compositeur. Au centre de ce CD, il y a son Requiem, sans doute son œuvre la plus connue. Nous allons écouter la pièce finale, le lumineux In Paradisum. In Paradisum, le chœur qui conclut le merveilleux requiem de Gabriel Fauré dans la version pour chœur et orgue enregistrée par la Schola Cantorum à Saint-Cernin avec Emmanuel Pellapra à l'orgue. Vous en parliez il y a quelques minutes d'Emmanuel Pellapra qui est également le président de votre association. Vous avez souhaité que ce soit un artiste qui préside l'association de la Schola Saint-Cernin. Emmanuel Pellapra qui compose aussi des pièces pour vous. Information importante concernant cette version du requiem de Fauré, vous avez choisi de l'enregistrer dans la prononciation gallicane. Expliquez-nous pourquoi.
Alors là, c'est un petit peu la bataille des puristes ou des interprètes. On a choisi de faire ça parce que, tout simplement, c'était à l'époque encore, jusque dans les années, on a bien confirmé ça avec Emmanuel, dans les années 1920 à Paris, jusque dans les années 1920, on chantait encore comme ça, qui était une volonté initialement du roi, qui, un petit peu pour embêter le pape à l'époque, voulait faire rayonner le latin à sa manière pour montrer que la France avait un certain son français. Et finalement, la chose est restée encore quelques siècles. Et à Paris, effectivement, c'était assez fréquent, donc c'est un son qui est tout à fait particulier. Alors aujourd'hui, c'est vrai que la prononciation à la gallicane est revenue presque un peu à la mode, pas trop pour ce répertoire-là, et donc en fait, on avait vraiment l'intention de mettre en place la sonorité qu'on pouvait entendre à la Madeleine, en fait.
En 1881, quand Fauré a créé son requiem.
C'était l'objectif.
Après ce petit rappel historique, on en arrive à ce double concert des 8 et 9 mars à la Basilique Saint-Cernin. Donc les deux commencent à 20h30, je l'ai dit. Cette fois-ci, c'est un autre requiem français célèbre qui est au programme, celui de Maurice Duruflet, composé en 1947. Après celui de Fauré, il y avait une certaine logique à vous attaquer à celui de Duruflet, Jean Percy.
Il y avait une certaine logique. Alors en fait, ce requiem a tout et rien à voir avec celui de Fauré, parce qu'effectivement, il n'y aurait pas eu Duruflet sans Fauré. Mais en même temps, c'est tellement différent. Selon moi, ça fait partie des grands requiems, vraiment au même titre que Fauré, au même titre que Verdi, au même titre que Mozart. Celui de Duruflet est extraordinaire à plus d'un titre pour la musique qu'il offre. Nous, la version là, que nous allons présenter, c'est dans le plus simple appareil, on va dire, c'est la version pour chœur et pour orgue, mais la plus simple, ça ne veut pas dire la moins réussie. Au contraire, je ne suis pas très à l'aise de dire qu'il s'agit d'une réduction pour l'orgue, parce que l'orgue est un orchestre à lui tout seul, et avec les sonorités, et surtout celle de l'orgue de Saint-Cernin et sous les doigts de Michel Bouvard, forcément, ça donne un côté, une ampleur absolument extraordinaire.
Alors vous, Michel Bouvard, on va vous donner la parole quand même, là, puisqu'on va parler de ce requiem de Maurice Duruflet pour chœur et orgue. Vous le placez où, vous, dans votre palmarès des requiems?
Ah, je partage l'avis de Jean. Je trouve que c'est un chef-d'œuvre absolu. C'est le chef-d'œuvre de Maurice Duruflet. Hein. Bon, après, oui. Toutes ses œuvres d'orgue sont chacune un chef-d'œuvre aussi. Hein. C'est stupéfiant. Dommage qu'il ait écrit si peu. C'est vraiment incroyable. Mais je peux vous raconter une petite anecdote, puisque vous parlez de le rapport Fauré-Duruflet. Quand j'avais quel âge ? J'avais 19 ans ou 20 ans. Vous savez, à Notre-Dame de Paris, il y avait les concerts d'orgue du dimanche, hein, organisés par Pierre Cochereau. Bon, et donc j'ai été...
Voilà, personnage, Pierre Cochereau.
J'ai été invité, très jeune, à jouer un de ces concerts, et j'avais mis au programme le Veni Creator de Duruflet en entier, prélude, adagio et chorale variée sur le Veni Creator. Et mon grand-père, qui était un ami très proche de Duruflet, vient au concert de Lyon. Il avait invité Duruflet à venir au concert, mais Duruflet, c'était après son accident
de la route
terrible,
donc
il avait dit qu'il ne pouvait pas venir au concert. Mais après le concert, nous téléphonons à Maurice dans une cabine parisienne. À l'époque, il n'y avait pas les portables, et mon grand-père lui dit: oh, tu sais, Maurice, le chanoine Revers, qui était le grand chanoine de Notre-Dame, merveilleux musicien, qui présentait tous les concerts, tu sais, il a dit, mon petit-fils a joué ton Veni Creator, et alors le chanoine Revers a dit tout ce que tu dois à Gabriel Fauré, etc. Et à ce moment-là, Duruflet se met en colère au téléphone, à l'autre bout, et dit: non, non, pas Fauré, Ravel, oui.
Mais en écoutant, je ne sais pas ce qu'on pense Sersovi, en écoutant le requiem de Duruflet, moi je pense beaucoup à Ravel, personnellement. Je ne sais pas si c'est votre cas, mais...
Il a été très marqué. Bon, mais je pense aussi qu'il y avait une petite... comment dire, le Fauré est tellement connu, etc.
Oui, qui écrase un peu les autres, voilà, en tout cas en France. Et puis, attention, le maître de Ravel s'appelait Fauré. Donc,
en plus,
il ne faut pas être de mauvaise foi.
Mais c'est vrai que l'influence de Debussy et de Ravel sur Duruflet est absolument évidente. C'est le seul compositeur pour orgue qui a écrit, un des seuls qui a écrit vraiment une musique... voilà. Et d'ailleurs, encore une anecdote qui me revient, je me rappelle de Claude Nougaro, que j'étais allé voir pour l'enterrement de sa maman. J'étais allé le voir avec le curé, parce que l'enterrement avait lieu à Saint-Cernin, et Nougaro me dit: jouez-moi du Ravel. Alors je lui dis: mais vous savez, Ravel n'a pas écrit pour l'orgue. Alors il me dit: ah, ben alors qu'est-ce qui sera? Ben, je lui dis: ben, c'est Duruflet. Je peux vous jouer du Duruflet. Ah, jouez-moi du Duruflet.
Ben oui, non, mais...
Voilà, donc pour vous répondre, je mets ce Requiem extrêmement haut, et surtout, comme Duruflet était organiste, et en même temps, il adorait jouer l'orgue dans l'orchestre, etc. C'est pas du tout une réduction de l'orchestre qu'il a fait. Il a écrit une véritable partie d'orgue qui est d'ailleurs pas du tout évidente.
C'est la question que j'allais vous poser. C'est une partition très difficile pour l'organiste.
Oui, c'est une partition très virtuose et très, comment dire, très compliquée, parce que l'écriture des cordes qui se croisent avec des batteries, qu'on appelle des batteries, vous savez, des battements, comme on écrit dans la musique symphonique, fait que quand c'est écrit pour l'orgue, c'est une véritable dentelle de notes tenues, de notes liées, de dissonances, de choses comme ça, et pour l'apprendre, c'est des heures.
Alors, après la partie d'orgue, la partie de chœur, donc Jean Percy, bon, quelles sont les particularités du Requiem de Maurice Duruflet pour les chanteurs, et puis quelle version vous allez donner, parce que la petite histoire de ce Requiem est un peu compliquée tout de même. Il y a plusieurs versions, plusieurs couches, pourrait-on dire.
Il y a eu plusieurs couches, mais de la même manière ça s'est passé de la même manière pour le Requiem de Fauré, en fait. Il y a eu plusieurs versions pour orchestre, pour orgue, pour un orchestre plus petit, plus grand, donc en fait, ils aimaient bien revenir dessus, et je crois que Duruflet, d'ailleurs, était un perfectionniste qui revenait pas mal sur ses œuvres. D'ailleurs, Michel m'a raconté que, écoute, finalement, de ce Requiem, eh bien, il en avait jusqu'à modifier le tempo, chose sur laquelle nous nous arrachons les cheveux actuellement dans nos répétitions. Mais d'un point de vue vocal, c'est une prouesse. Il faut savoir qu'il avait un petit côté conservateur et il n'aimait pas la nouvelle musique d'église qui provenait notamment de Vatican II. Et lui, voyant arriver des choses qui ne lui plaisaient pas beaucoup, il a décidé de faire une lettre d'amour au chant grégorien.
Oui.
Et en fait, il a fait ça à plusieurs reprises. Hein. Il a écrit des motets sur les chants grégoriens, il a écrit une messe, cum jubilo, et ce fameux Requiem, extraordinaire page, où là, il harmonise la messe des morts grégorienne. Et alors là, c'est un tour de force extraordinaire, parce que Michel pourra peut-être me dire pareil, bon, moi je suis pas Michel, mais quand on doit à l'orgue accompagner une messe grégorienne, c'est toujours compliqué. Mais alors lui, il fait ça avec un talent, une aisance, c'est d'un naturel, et avec les chœurs, donc vous avez un premier morceau, si j'ose dire, juste les chœurs, quand on répétait entre les chœurs, vous avez un premier morceau, et alors quand on rajoute l'orgue, on vient en chasser un diamant au milieu d'une couronne, quoi. C'est absolument magique, et il y a une grande fluidité qui arrive avec ses références grégoriennes, mais en même temps ses harmonies du XXe siècle qui sont absolument uniques.
Et d'ailleurs, j'ai encore une petite anecdote, c'est que mon grand-père me racontait que Duruflet remplaçait donc Louis Vierne à Notre-Dame de Paris, hein, je parle ici dans les années 30.
Il était un des élèves de Louis Vierne d'ailleurs.
Voilà, il a été élève de Louis Vierne, et donc il le remplaçait. Mon grand-père me disait toujours, oh, tu sais, quand on entendait à Notre-Dame Duruflet accompagner le grégorien, il m'a dit c'était
magique.
Magique, et ça a donné plus tard le Requiem, mais il accompagnait tout le grégorien comme ça. Alors évidemment, c'est autre chose que l'accompagnement du grégorien très 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 sobre, pratiqué par Solesme par exemple ou autre. Duruflet a magnifié, je trouve, cette musique en introduisant, comme dit Jean, des harmonies modernes, et c'est sublime.
Pour terminer donc sur la version que vous allez donner les 8 et 9 mars à la Basilique Saint-Cernin, quel chœur va-t-on entendre ce soir-là, ces soirs-là ?
Alors en fait, vous allez entendre 3 sur 4. Dans un premier temps, ce qu'on a voulu faire, c'est vous faire entendre le grégorien tout simple, de sorte à ce qu'on puisse faire le lien entre la messe grégorienne et ce qu'a voulu exprimer Duruflet. Parce qu'il faut savoir que Duruflet, il a écrit sans écrire presque. En fait, quand on regarde simplement la partition de chœur, tout est très déstructuré, les mesures notamment. Parce que vous le savez, en grégorien, il n'y a pas de mesure, et il y a un côté très libre. Et lui, il s'est beaucoup astreint à donner cette liberté au chorisme. Et mais d'un autre côté, il faut de la musique très mesurée, parce qu'il y a un orgue presque métronomique à un certain moment. Et en fait, c'est tout ce génie incroyable de donner autant de liberté, autant d'espace, avec autant de contraintes finalement, et c'est ça qu'on trouve extraordinaire. Donc on va mettre l'écho entre l'œuvre de Duruflet et le grégorien, donc on va entendre le chœur grégorien, on va entendre le grand chœur que je vais diriger, et pour certaines parties, exactement comme on l'a fait d'ailleurs dans notre disque de Fauré, quelques membres de l'atelier vocal, donc les enfants, vont venir chanter, notamment pour le final avec
le
les portes du paradis qui s'ouvrent. Là, quoi de mieux que des enfants pour annoncer un plus beau ciel.
Pour vous donner un aperçu du Requiem de Maurice Duruflet, nous allons écouter son Sanctus dans une version enregistrée en 1999 par l'Orchestre National du Capitole avec le chœur Orpheon de Nocera et sous la direction de Michel Plasson. Thank you. Le Sanctus du Requiem de Maurice Duruflet dans une version enregistrée en 1999 sous le label Warner Classic par l'Orchestre National du Capitole et le chœur Orfeon Donostiara dirigé par Michel Plasson. Mais ce sont donc les chœurs de la Schola Cantorum dirigés par Clarice Chantelot et Jean Percy et accompagnés à l'orgue par Michel Bouvard qui donnent cette œuvre magnifique ces vendredi 8 et samedi 9 mars à la Basilique Saint-Sernin à chaque fois à 20h30. Ne ratez surtout pas cette occasion d'entendre ce chef-d'œuvre en concert. Il y a beaucoup d'autres rendez-vous à vous annoncer d'ici notre prochain numéro. Dès ce mercredi 6 mars, l'Orchestre National du Capitole est de retour à la Halograin avec le chef italien Fabio Biondi à la baguette et avec un pianiste invité qui, assez bizarrement, semble-t-il, ne s'est jamais produit avec notre ensemble symphonie toulousain, Serge, c'est Alexandre Tarot.
Voilà, grand pianiste, poète du piano, on peut dire, qui sera là pour être le soliste du concerto pour piano numéro 9. C'est un concert Mozart, encore un, évidemment. Le concerto pour piano numéro 9, dit jeune homme. Et oui. Mais ce n'est pas du tout ce que l'on pourrait imaginer. C'est non. Mademoiselle Jeune Homme qui était la dédicataire de ce concerto, une élève de Mozart. Et sera également jouée, donc, dirigée par Fabio Biondi, qui est également violoniste, oui. Donc, mais là, il sera uniquement chef d'orchestre. Et donc, il dirigera d'abord l'ouverture de l'opéra de jeunesse Lucio Silla, de Mozart, toujours, bien sûr, et trois symphonies, pas moins de trois, donc la 11e, la 30e et la 13e. Trois symphonies, une ouverture, un concerto.
Et ce programme a été sous-titré « Le Béaba de Mozart ». C'est assez juste. Alors, le concerto jeune homme pour Alexandre Tarot, ça va bien parce qu'avec son allure d'éternel adolescent,
oui,
ça lui
parfait.
Va très bien, je trouve. Oui. On va écouter un petit extrait de ce concerto numéro 9, jeune homme de Mozart avec Alexandre Tarot au piano. C'est le troisième mouvement, le rondo. Thank you. le magnifique troisième mouvement rondo du concerto pour piano numéro 9, Jeune homme de Mozart, joué par Alexandre Tarot, qui se produit donc avec l'Orchestre national du Capitole à la Halograin ce mercredi 6 mars à 20h. Et le lendemain, on reste à la Halograin pour retrouver un autre pianiste français, bien connu aussi dans notre région, dont il est originaire d'ailleurs, le Tarbais David Frey, qui lui se produit en duo avec un habitué des lieux, le violoniste Renaud Capuçon. C'est un concert présenté par le cycle des grands interprètes. Quel est le programme de la soirée, Serge ?
Alors le programme associe Schubert et Beethoven avec deux œuvres de Schubert. La sonate pour violon et piano donc en La majeur, dite grand duo, la Deutsch 574. Et puis le rondo brillant pour violon et piano toujours, Deutsch 895. Et de Beethoven en deuxième partie, l'une des plus célèbres des sonates violon-piano, la sonate numéro 9, dite « Akreuzer », grande sonate, extraordinaire, hein, bon, et un peu révolutionnaire pour l'époque. Alors, il ne faut pas oublier que Renaud Capuçon, qui est violoniste, a été nommé également chef titulaire de l'Orchestre de Chambre de Lausanne, il dirige donc, et que David Frey, ça je voudrais le citer, a fondé et dirige dans sa région autour de Tarbes un festival musical humaniste et solidaire à l'intention des personnes en situation de handicap, un festival qu'il a intitulé magnifiquement l'Offrande musicale. Donc c'est vraiment quelqu'un de grand et de formidable.
Et qui est assez fidèle à sa région puisqu'il demeure toujours
absolument,
à côté de Tarbes.
Absolument.
Voilà. Un musicien bien ancré en Occitanie et même, on pourrait dire, en Bigorre. Alors maintenant, pour terminer, il y a deux concerts qui ont malheureusement lieu le même jour et à la même heure, mardi 12 mars à 20h. On va commencer avec celui des Sacboutiers et de l'ensemble Clément Jeannequin à la Basilique Saint-Cernin dans le cadre de la saison des Arts Renaissants. Deux formations qui collaborent de longue date, Serge, et qui proposent un programme au titre un peu étrange, pour ceux qui ne connaissent pas, L'homme armé, larmes et alarmes, Pierre Delarue. Expliquez-nous ça.
Oui, eh bien, Pierre Delarue était un grand compositeur qui est né en 1450, mort en 1518, et qui a consacré deux de ses compositions majeures, un requiem, intitulé Missa pro defunctis, et une messe parodique, ce qui était un genre prisé à la Renaissance, qu'il a baptisé Messe des batailles. Alors, il n'y a pas que des compositions de Pierre Delarue dans ces deux messes. Il y a d'autres compositeurs qui ont participé, qui ont été intégrés à l'ensemble de ces deux messes. Donc, c'est vraiment un programme très original et très nouveau que vont nous démonter en quelque sorte et remonter les deux ensembles, donc, comme vous disiez, qui travaillent ensemble depuis très longtemps. C'est Dominique Viss, celui qui dirige en quelque sorte
l'ensemble
Clément Jeannequin, qui dit ceci: de la lamentation à la jubilation, la diversité des formes de composition, les distributions, ainsi que l'association des voix et des instruments, dévoilent ici toute la richesse des pratiques et l'étendue de la palette de couleurs propre à la musique de la Renaissance. Donc c'est à ça qu'il faut s'attendre ce soir-là, à la Basilique Saint-Cernin, une fois.
Un lieu qui s'y prête très bien, et c'est pas Jean Persil ni Michel Bouvard qui vont me démentir sur ce coup-là. On va écouter un petit extrait de ce programme, le Kyrie de la messe L'homme armé de Pierre Delarue, dans une version chantée par l'ensemble Clément Jeannequin.
Thank you.
Le Kyrie de la messe L'homme armé de Pierre Delarue, chanté par l'ensemble Clément Jeannequin, qui est donc en concert avec les Sacboutiers mardi 12 mars à 20h à la basilique Saint-Cernin, à l'invitation de la saison des Arts Renaissants, et puis donc le même jour à la même heure, concert de l'Orchestre National du Capitole à la Halle aux Grains, avec Tougan Sokiev à la direction et une œuvre unique au programme, Serge, la 7e symphonie de Dimitri Chostakovitch, appelée aussi Symphonie Leningrad.
Oui, oui, on connaît la passion de Tougan Sokiev pour Chostakovitch, dont il veut diriger l'ensemble de ses symphonies avec l'Orchestre National.
Il veut les 15,
bien.
Oui.
Voilà. Et donc là, c'est la 7e, donc cette 7e symphonie, dont la première n'a même pas eu lieu à Leningrad, qui était sous le siège, qui a eu lieu dans une petite ville qui s'appelle Kuibitchev, avec l'orchestre du théâtre du Bolchoï, d'ailleurs. Cette symphonie, alors, elle a une ambiguïté qui est traditionnelle chez Chostakovitch, puisqu'on peut dire qu'elle suscite deux lectures. D'une part, Leningrad qui résiste face à l'envahisseur nazi, mais d'autre part, Leningrad miné par le stalinisme. Et donc on a cette ambiguïté entre les deux qui est très courante dans toutes les symphonies du Chostakovitch. Et donc c'est vraiment un événement important quand même. Et on le sait pour Tougan Sokiev, c'est une œuvre vraiment très très importante pour lui.
Créé en 1942, bon, d'où effectivement le fait qu'on la rattache plutôt à la résistance à l'envahisseur allemand, mais après qui a été considéré plutôt comme une œuvre contre Staline, bon, anti-stalinienne.
Voilà, ben, je crois qu'il y a les deux.
Chostakovitch n'est plus là pour répondre et pour illustrer ce que nous venons de dire. Voici un extrait de cette 7e symphonie de Chostakovitch, enregistrée lors d'un concert de l'Orchestre National du Capitole dirigé par Tougan Sokiev. Vous allez pouvoir constater, entre autres, le côté parfois très martial de cette œuvre. Extrait de la 7e symphonie de Chostakovitch, Leningrad, dans une version de l'Orchestre National du Capitole dirigé par Tougan Sokiev. Les mêmes la redonnent donc le mardi 12 mars à 20h à la Halle aux Grains, lors d'un concert dont elle est la seule œuvre au programme. Les places sont à acheter et à réserver sur le site www.onct.toulouse.fr. C'est sur ce même site que je vous invite à faire vos réservations et à acheter vos billets pour le concert de l'Orchestre National du Capitole avec le pianiste Alexandre Tarot sous la direction de Fabio Biondi, ce mercredi 6 mars à la Halle aux Grains, toujours à 20h. Et puis donc le jeudi 7 mars, encore à la Halle aux Grains et à 20h, vous avez rendez-vous avec le duo David Frey Renaud Capuçon, invité par la saison des grands interprètes, billetterie en ligne à l'adresse www.grandsinterprètes.com. Vendredi 8 et samedi 9 mars à 20h30, la Scola Cantorum, accompagnée à l'orgue par Michel Bouvard, donne le Requiem de Maurice Duruflet à la Basilique Saint-Cernin, un autre rendez-vous à ne pas rater pour lequel je vous invite à réserver et acheter vos places sur le site www.scola-saintcernin.com, un site sur lequel vous pouvez aussi vous procurer le très beau CD Requiem de Forêt enregistré par la Scola. Et enfin donc, toujours à la Basilique Saint-Cernin, concert des Sacs-Boutiers de l'ensemble Clément Jeanne mardi 12 mars à 20h dans le cadre de la saison des Arts Renaissants. Réservation et achat des billets sur le site www.art-renaissant.fr. Merci infiniment à Serge Ozy, à Michel Bouvard et à Jean Percy d'avoir participé à cette émission. Merci aussi à Christophe Aubry qui l'a réalisé. Podcast disponible et téléchargeable comme d'habitude dès aujourd'hui sur le site web de Radio Présence. Et merci à vous tous qui nous écoutez chaque mardi et mercredi très fidèlement. Excellente semaine musicale à tous. À bientôt.